Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romance, oui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain Ouzoui, bonsoir à tous.
À la une ce soir aux États-Unis, des tensions chez les Républicains. Une élue pro-Trump, Marjorie Taylor Greene, est poussée à la démission après des propos complotistes. Un vote doit avoir lieu ce soir à la Chambre des représentants.
En Birmanie, l'accès à Facebook a été coupé sur décision des généraux qui sont à l'origine du coup d'État de lundi. Et cela accroît la pression alors que Facebook est utilisé comme un outil de résistance.
Et puis la pandémie de coronavirus. Dans ce journal en français facile, nous irons au Chili où la campagne de vaccination vient de commencer. Et puis nous irons également au Danemark. Le Danemark qui propose un passeport, un Corona Pass. Explication à la fin de cette édition.
Le journal en français facile.
Quel sort pour l'élue américaine Marjorie Taylor Greene?
Alors cette députée républicaine âgée de 46 ans fait polémique. Par le passé, elle a soutenu des thèses complotistes. Elle avait par exemple mis en doute le fait qu'un avion se soit écrasé le 11 septembre 2001 sur le Pentagone. Elle avait également tenu des propos très violents à l'égard de la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, coupable selon elle de trahison, un crime, avait déclaré Marjorie Taylor Greene, un crime punissable par la mort. Alors en raison de toutes ces prises de parole, la Chambre des représentants doit ce soir voter sur l'avenir de cet élu pro-Donald Trump. On retrouve en direct des États-Unis notre correspondant Eric Desalves. Eric, avant ce vote que l'on évoquait, Marjorie Taylor Greene s'est exprimée et elle revient sur ses déclarations contestées.
Oui, avec d'abord cette déclaration surréaliste sur les attentats du 11 septembre. Le 11 septembre a bien eu lieu, dit Marjorie Taylor Greene, devant la Chambre des représentants. Ce jour-là, j'étais devant ma télé, en pleurs. Je ne crois pas que ce soit faux. Ces doutes sur le fait qu'un avion se soit écrasé sur le Pentagone, ce sont des mots du passé, dit-elle aujourd'hui. Tout comme ses propos sur la tuerie de Parkland en Floride. L'élue républicaine avait assuré qu'il s'agissait d'une mise en scène avec des acteurs destinés à renforcer le contrôle sur les armes. Marche arrière là-dessus également. Les tueries scolaires sont absolument une réalité, dit-elle. L'élue assure avoir été elle-même prise en otage par un camarade quand elle était au lycée. Je connais la peur de David Hogue qu'il a eue ce jour-là, David Hogue, survivant de Parkland, que Marjorie Taylor Greene avait harcelé en le poursuivant dans les rues de Washington. Enfin, QAnon, ce mouvement conspirationniste qui accuse les démocrates d'être des pédophiles satanistes buvant le sang des bébés. J'ai découvert cela sur Internet, mais j'ai arrêté d'y croire en 2018, dit Marjorie Taylor Greene, qui en avait pourtant fait la promotion dans des vidéos. Alors l'élu très contesté accuse les médias d'avoir sorti ses propos hors de leur contexte, des propos, dit-elle, qui datent d'avant son élection. En tout cas, tout à l'heure, les élus démocrates devraient voter son expulsion des comités budget et éducation de la Chambre des représentants.
À suivre donc. Merci beaucoup, Eric de Salve, en direct de San Francisco.
Également aux États-Unis, le nouveau président Joe Biden a réservé sa première visite présidentielle dans une administration au Département d'État.
Oui, il s'est d'abord adressé aux diplomates américains qu'il a tenu à rassurer et à encourager après 4 années difficiles sous le mandat de Donald Trump. Et une fois de plus, c'était une manière pour Joe Biden de marquer la rupture avec son prédécesseur.
En Birmanie, les généraux renforcent la pression 3 jours après leur coup d'État.
Oui, ce jeudi, ils ont donné l'ordre aux fournisseurs d'Internet de bloquer l'accès à Facebook, la plateforme qui est un outil de résistance essentiel depuis le putsch de lundi. Écoutez, ce moine de la ville de Mandalay, il nous explique pourquoi cette décision a été prise. Il est au micro de Yelena Tomic.
Depuis la nuit dernière, la dictature militaire a coupé l'accès à Facebook parce que le réseau est très largement utilisé ici en Birmanie. Plus de 20 millions de personnes l'utilisent pour communiquer ou émettre des critiques de manière non violente, ce qui a poussé les militaires à couper le réseau. Mais beaucoup d'internautes, surtout les jeunes, continuent à l'utiliser en contournant le blocage grâce au VPN ou à d'autres applications. Les militaires ont très peur de ces nouvelles technologies de communication. Le mouvement de désobéissance civile commence à être largement suivi dans le pays grâce à Facebook. Les gens s'encouragent les uns les autres et s'informent par ce biais. Tous les soirs, désormais, il y a un concert de casseroles, ce qui énerve beaucoup les militaires et ce qui leur fait peur. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de bloquer Facebook.
Voilà, témoignage donc d'un moine de Mandalay, également concernant la Birmanie ce jeudi. Rassemblement de plusieurs centaines de partisans de l'armée dans la capitale. On ne veut plus des traîtres nationaux vendus à des pays étrangers. Voilà ce que l'on pouvait lire sur les pancartes. Pas de manifestation populaire en revanche dans les rues. La peur de représailles est forte. Et puis à noter la déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU, toujours concernant la Birmanie, qui exprime dans une déclaration sa profonde préoccupation et qui demande la libération de tous les détenus.
Au Liban, la mort d'un militant et intellectuel connu pour ses positions critiques envers le Hezbollah.
Oui, Lokman Slim, âgé de 58 ans, il a été retrouvé tué par balle dans sa voiture dans le sud du Liban. Il était engagé en faveur de la laïcité, en faveur de la démocratie, et il ne cachait pas effectivement son opposition au mouvement chiite libanais du Hezbollah. Le Hezbollah qui a réagi, qui a condamné ce meurtre. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient. La France condamne avec la plus grande fermeté cette assassinat.
Et puis, dans l'actualité, la pandémie de coronavirus, hein, le Chili qui débute sa campagne de vaccination.
Oui, et qui débute cette campagne à vive allure. Hein. Rien que dans la journée d'hier, 140 000 personnes qui ont reçu leur première injection. Et il faut dire, le projet du gouvernement chilien est ambitieux. Il s'agit de vacciner 15 des 18 millions d'habitants au Chili d'ici le mois de juillet. Et pour y parvenir, le Chili a passé des accords avec de nombreux laboratoires pour acheter au total 36 millions de doses de vaccins. Car la réalité est là. La pandémie touche durement le Chili. Écoutez la présidente du Collège des médecins, Iskia Siches.
Nous avons passé des accords avec Pfizer, AstraZeneca, Sinovac et Johnson & Johnson et nous espérons d'autres contrats avec Moderna et Sputnik V. Nous avons observé une augmentation importante de décès. On a dépassé les 44 000 morts du Covid dans le pays. 85% d'entre eux étaient des personnes âgées, la plupart de plus de 60 ans. Donc nous sommes très inquiets alors que nous sommes en pleine saison estivale. Le système de santé régional a été débordé. Je rappelle que le Chili est un pays tout en longueur. Cette épidémie a eu un impact très fort sur les régions les plus éloignées. Nous sommes aussi inquiets du retour de vacances en mars, car nous aurons trois facteurs aggravants. Davantage de mouvements de population, le retour des gens dans les grandes zones urbaines et le changement de saison. Donc, on prévoit une augmentation des cas. On espère que d'ici là, grâce à la campagne de vaccination, on aura des résultats prometteurs de ce processus d'immunisation avec moins de décès chez les plus âgés.
Voilà, la présidente du Collège des médecins au Chili, Iskia Siches, propos recueillis par Aïda Paloa.
Et puis également concernant le coronavirus, cette initiative du Danemark.
Oui, le pays vient de lancer un Corona Pass numérique. Alors, c'est inspiré de ce qu'avait proposé l'Islande. En d'autres mots, c'est une application qui permettra de voyager, d'aller au restaurant ou d'aller à un concert. Évidemment, tout cela sous certaines conditions. Être vacciné, tester négatif ou avoir des anticorps du Covid-19. Explication Auriane Verdier.
Voilà plusieurs semaines que la question des passeports vaccinaux divise en Europe. Les pays les plus prudents, parmi lesquels figure la France, font valoir qu'on ne sait pas encore si les personnes vaccinées sont pour autant moins susceptibles de transmettre la maladie. L'Islande a été le premier pays au monde à proposer ce passeport vaccinal qui devrait permettre aux détenteurs de voyager, mais comme aucun autre pays de l'espace Schengen ne le reconnaît, il ne sert pour l'instant pas à grand-chose. Avec son Corona Pass, le Danemark, lui, va bien plus loin. Ce sera donc une application à télécharger sur le téléphone et qui ne s'adressera s'adressera pas qu'aux personnes vaccinées. Si vous voulez par exemple aller au restaurant le soir et que vous vous faites tester négatif le matin, les résultats seront directement transmis sur l'application. Un QR code permettra alors d'entrer dans l'établissement. Le Danemark est déjà ultra connecté. Ses habitants possèdent tous une signature électronique sécurisée. Leur dossier médical est également entièrement numérisé. Il faudra tout de même attendre 3 à 4 mois avant que l'application soit entièrement fonctionnelle.
Auriane Verdier, également concernant le Covid-19, a noté que Mayotte va être reconfinée pour au moins 3 semaines à partir de demain soir. C'est le ministre des Outre-mer qui l'annonce. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Sylvie.
Merci à vous Romain.
Merci à Laurent Philippot qui était ce soir à la réalisation. 21h10, ici à Paris, 1h de moins en temps universel.
Session Lab, un podcast réalisé en son 3D par RFI Labo.